Bonjour, ici Éric Lucas, vous écoutez les gérants d'estrade avec Simon Smarriga.
Analyse, opinion et entrevue. Sur rbds.ca, bienvenue à l'émission Les gérants d'estrade. Et maintenant, voici celui qui n'a pas peur de ses opinions, votre animateur, Simon Smarriga.
Bienvenue, mesdames et messieurs, à une autre émission des gérants d'estrade. Émission du 1er juillet 2006, où on va revoir le repêchage de la Ligue nationale qui a eu lieu le 24 juin dernier. On va analyser tout ce qui s'est passé, les transactions qu'il a eues. On va voir surtout les agents libres sans restrictions qui vont être disponibles et où ils pourront aller, et la situation du Canadien de Montréal. Mais pour commencer, accueillons notre invité d'aujourd'hui.
And now, here's Maxime Chevalier.
Bonjour Maxime.
Ça va Simon?
Ah oui, en grande forme, et toi?
Top chef.
Si tu me le permets, on va tout de suite analyser le repêchage qu'il y a eu le 24 juin dernier.
Tu as ma permission, Simon.
Ok, merci de me l'accorder. Je sais pas si tu viens de tes choix, on avait regardé les besoins de chaque équipe. On va regarder les choix qu'ils ont choisis, puis ceux que tu avais pris, puis moi les joueurs que j'avais choisis. Alors si on commence tout de suite avec les Blues de Saint-Louis, ça a été un no-brainer. Comme on dit en anglais, c'est un choix qui est évident. Eric Johnson, on a dit de lui que c'était le meilleur défenseur disponible au repêchage depuis Chris Pronger. On va passer tout de suite au deuxième. À moins que tu avais quelque chose à rajouter.
Ben, pas vraiment, Simon, on t'a fait le tour.
Le choix numéro 2, là, ça m'a vraiment surpris. Les Penguins de Pittsburgh, il y avait énormément de rumeurs au fait que les Penguins voulaient échanger leur deuxième choix au repêchage. Et puis, finalement, ils ont été, ils ont repêché Jordan Staal. Et là, ça promet là, vraiment là, à Pittsburgh en attaque.
Effectivement, Simon, là, si on pense à Crosby, Malkin, Jordan Staal.
Mais malgré que Jordan Staal s'attend à être déplacé au niveau de l'aile. Bien sûr, s'il réussit à faire la conversion, un allié de cette grosseur-là, avec tout le talent qu'il a justement au niveau offensif, qui pourrait appuyer un Malkin ou un Crosby, déjà là, ça pourrait être vraiment être impressionnant, puis ça va justement remplir des besoins qu'ils ont au niveau de l'aile les prochaines années. Là.
Donc en bref, Simon, si on analyse les forces des Pingouins au centre, on a Crosby, on a Malkin, donc Jordan Staal, il peut pas vraiment rester au centre. Tu parlais d'une conversion à l'aile, probablement. Donc, tout dépendamment de sa capacité d'adaptation pour jouer à l'aile, de toute façon, il est quand même assez jeune. Là. Ce gars-là n'aura pas vraiment de difficultés. On connaît le talent de la famille Staal. Méchant de puissance, Simon, Fleury dans les buts. Jordan Staal, Eugénie Malkin, Crosby. Tout ce qui manque, c'est des défenseurs de premier plan.
Il manque pas de ressources présentement.
Vraiment pas. Écoute, Michel Therrien a de quoi être satisfait.
Alors, si on passe tout en troisième position, les Blackhawks de Chicago... Toi, tu avais nommé Phil Kessel, moi, ça avait été Niklas Backstrom, et finalement, ça a été Jonathan Taves.
Effectivement, Simon, les Blackhawks qui nous ont surpris un peu. Moi, je m'attendais à, justement, comme tu disais, à ce que Kessel soit repêché au troisième rang. Jonathan Taves, à ce moment-là, quand même un excellent choix, là, c'est pas un pied de céleri.
Non, mais c'est probablement le joueur le plus polyvalent, dans les deux sens de la patinoire. Là. En quatrième position, les Capitals de Washington ont choisi Niklas Backstrom, alors qu'on pensait que c'était pour être Kessel. Ensuite, Kessel qui est sorti en cinquième position avec les Bruins de Boston. Maintenant, les Bruins, combien de temps qu'ils vont garder Kessel?
Bonne question. Tout dépendant de son rendement, mais de toute façon, on regarde le rendement à Joe Thornton, puis Samsonov, tous les joueurs de premier plan, comme tu expliques si bien, Simon, ont changé d'adresse. Je sais pas ce qui se passe à Boston, hein?
Aucune idée, mais ce serait peut-être temps qu'il commence à avoir un peu de stabilité à ce chapitre-là. Dans les cinq premiers, on a eu deux choix dans le bonhomme. Maintenant, en sixième position, Columbus, Derek Brassard.
Moi, je pense, Simon, j'avais misé dans le mille.
Oui, moi aussi. Excellent choix pour Columbus. En septième position, les Islanders de New York ont choisi Kyle Okposo.
Oui, moi, Kyle Okposo, je l'avais placé... 9e. Moi, je pensais que c'était pour être le Wild qui était pour le drafter, parce qu'en fait, Okposo est originaire de Minneapolis, au Minnesota. Donc, un joueur local.
Mais les Islanders ont coupé l'herbe sous le pied carrément.
Et effectivement. De toute façon, Kalok Pozo, eux autres, ils le voyaient avant Frolic.
Frolic qui finalement a quitté en 10e position. Nous, notre choix Frolic était en 7e position avec les Islanders. En 8e position, les Coyotes de Phoenix, Peter Mueller. Puis là-dessus, le choix, Peter Mueller, tu l'avais. Mais à la dernière seconde, tu as changé pour Brian Little.
Oui, ils disent que la meilleure idée, c'est le temps la meilleure. La première idée, c'est le temps la meilleure.
La première idée.
James Shepard, c'est quand même pas un 2 de trèfle, Simon?
Non, vraiment pas, mais James Shepard a sorti en 9e position. James Shepard qui était mon choix en 8e.
De toute façon, on s'entend, là, cette année, il disait que c'était pas nécessairement une grande cuvée, mais dans les 20 premiers choix, là, à part les 3 ou 4 premiers là, qui ont vraiment une coche d'avance ces autres, c'est quand même des joueurs de bonne qualité, là. Tout dépendant des recruteurs de chaque équipe qui ont peut-être décelé des petits défauts dans certains aspects du jeu de certains joueurs ou d'autres qualités. En fait, c'est quand même interchangeable facilement.
En 10e position, les Panthers de la Floride. Nous, on s'attendait à ce qu'ils choisissent un gardien de but parce que ça allait vraiment pas bien avec les négociations avec Roberto Luongo. On s'attendait à ce qu'ils prennent Riku Helenius. Et puis finalement, Riku Helenius est parti justement avec une équipe qui avait un grand besoin de gardien de but, mais il est parti en 15e position avec le Lightning de Tampa Bay.
Ouais, ce qu'on a trouvé surprenant, nous, c'est qu'ils sortent après Bernier. On serait joué pour Bernier, en fait, là, représentant de la Ligue junior majeure du Québec, mais Helenius a 6 pieds 3, un gardien format géant.
Là où ce qu'on a tapé dans le miel, c'est le choix de Ty Wishart.
Moi,
qui est parti en 16e position, mais pas avec le bon club.
Effectivement, Simon, moi je le voyais dans l'uniforme du CH. Le Canadien repêchait 16e. Donc, avait une chance de mettre la main sur Ty Wishart, qui, la centrale, le plaçait justement à 16 ou 17e.
Oui, dans ce bout-là.
Écoute, à 6-3, 6-4, il disait justement « fiable comme une laveuse métal ». Nous autres, on avait trouvé quand même ça assez comique.
Ça aurait été un excellent choix, mais le Canadien a préféré changer son choix, reculer un peu, y aller avec...
Pour obtenir deux choix en deuxième round, je pense, hein, Simon?
Oui. Le Canadien qui a préféré choisir David Fisher.
Oui, Simon, David Fisher, un joueur originaire des États-Unis. Il joue présentement pour Apple Valley, une équipe secondaire, je crois.
Oui, je crois aussi.
École secondaire. À 6-3, à 17 ans, on dit de lui qu'il est un leader né, tu m'as dit tantôt. Écoute, en espérant que les Canadiens auront fait un choix judicieux.
Mais le plus intéressant, ça a été les échanges qui ont eu lieu justement dans la période du repêchage. Et une des plus grosses a eu lieu la veille avec Roberto Luongo qui a été échangé aux Canucks de Vancouver. Donc, Roberto Luongo qui a été échangé contre Todd Bertuzzi, Brian Allen et Alexander Holt.
À mon avis, ceux qui sont gagnants dans cet échange-là, c'est les Canucks. Écoute, Bertuzzi, pour moi, c'était comme du bois mort. Alex Holt, je le connais plus ou moins. L'arrivée de Roberto Luongo à Vancouver, c'est juste bénéfique pour les Canucks.
Ben, pour moi, ça a été un échange complètement stupide de la part de Mike Keenan. D'après moi, maintenant, en date du 1er juillet, l'équipe qui devrait représenter en conférence de l'Ouest à la prochaine Coupe Stanley va être les Canucks de Vancouver.
Oh, Simon, oh, on est encore de bonne heure. Tu dis
Roberto Luongo, qui, à mon avis, est le meilleur gardien de but de la Ligue.
Sans aucun doute. Mais on se rappelle à...
Et je vais expliquer pourquoi, selon moi... c'est une échange stupide de la part de Mike Keenan, c'est que Ottawa leur a offert Martin Havlat, Chris Phillips et Ray Emery.
Sérieusement?
Très sérieusement. La seule raison pourquoi on aurait refusé la transaction, c'est que Jacques Martin avait joué à Ottawa et avait eu la difficulté avec Havlat et Phillips.
Ah, ben ça explique quand même.
Ben, tu reconstruis quand même une équipe.
Oui, mais là, Havlat, vas-tu vouloir jouer? Vas-tu vouloir pas jouer? Ray Emery, on s'entend, c'est pas. C'est comme des petits changes, une transaction, ça.
Ben, Ray Emery avait quand même bien fait avec les Sénateurs d'Ottawa.
Bon, l'absence de Hasek, là, mais c'est ça, bien fait.
Ben, si t'avais le choix entre Emery ou ben Alexander Holt. Ouais.
Ray Emery, je l'ai vu garder les buts à Ottawa. Il m'a pas vraiment impressionné.
Bon.
Hey, il peut sortir des méchants arrêts comme il peut laisser passer des buts stupides.
Suite à la transaction. Roberto Luongo, qui était un joueur...
Dit de concession.
Oui, mais surtout un agent libre avec restriction.
OK.
selon des sources très bien informées, se serait fait offrir par une équipe qu'on ne connaît pas, 8 millions par année.
OK.
Donc, il y a une équipe qui a brisé la loi non écrite de faire une offre à un joueur du groupe 2.
Ouais, ouais, mais on s'entend, comme tu disais tantôt, Roberto Luongo est le meilleur gardien. Ou, ex-aequo avec Martin Brodeur, on s'entend, c'est deux gardiens vraiment d'exception, là. Fait que c'est pas surprenant vraiment qu'une équipe ait brisé cette règle non écrite-là, comme tu parles.
Et on soupçonne une équipe, bon, qui a de l'argent.
New York.
Qui a un besoin. Un besoin de gardien de jeu urgent.
Les Rangers de New York.
Non, ils ont Henrik Lundqvist.
Ouais.
Donc, tout se dirige vers les Maple Leafs de Toronto.
Pas surprenant, ça.
Pas surprenant du tout. Puis, Roberto Luongo, qui a été quand même fidèle, sachant que les Canucks ont quand même donné une certaine valeur en retour de ses services, a décidé d'accepter l'offre pareil des Canucks de Vancouver. Mais c'est juste pour dire que déjà, la loi non écrite est en train de se violer. Là. Ça va être quoi à partir du 1er juillet?
Oui, mais assez violée, comme tu dis, pour le meilleur gardien disponible, Simon. C'est quand même pas peu dire.
Prochaine transaction. Pavel Dimitra, qui a pris le chemin de Minnesota en retour de Patrick O'Sullivan et du premier choix de 2006. Pavel Dimitra, 58 matchs, 25 buts, 37 passes, 62 points, 4 500 000.
4 500 000.
Ouais.
C'est cher quand même.
C'est sûr que Pavel Dimitra, un allié droit, va rejoindre Marianne Gaborik, un allié droit. Ça sent quoi maintenant? Maintenant, les Kings ont libéré 4 500 000. Pour quelle raison maintenant?
Pour aller chercher un gardien de premier plan. Parce que j'ai entendu que Garon faisait pas l'affaire à Los Angeles.
Non, je sais pas pourquoi, mais moi je le reprendrais bien tout de suite, le Garon à Montréal.
Contre Abichère.
Contre Abichère. Mais ça augure quoi exactement au Minnesota?
Peut-être que bon Jacques Lemay et Tremblay, on connaît leur poigne naturelle puis leur capacité d'aller tirer le meilleur des joueurs. Peut-être vont savoir comment percer le mystère d'Imitra.
Ben, c'est pas tant le mystère de Dimitra. Moi, je pense que c'est beaucoup plus le fait que Marianne Gaborik exige 7,6 millions.
Non, mais Gaborik fume du crack, Simon. Ouais, Gaboré qui se considère qu'il était avec Brad Richard, on en avait parlé précédemment.
Ouais, dans une ancienne émission.
Écoute, toi Gaboré, qu'est-ce que t'en penses? On s'écarte un peu, là, mais...
Ben, mais Marianne Gaboré, c'est un des meilleurs alliés droits, rapide, des mains extraordinaires, fin scoreur. 6 pieds 1 pour Marianne Gaboré, 24 ans, tandis que Pavel Dimitra, bon, 6 pieds, 31 ans.
À toi, de la façon dont tu parles, c'est comme si... le Wild se trouverait à libérer soit Gaborik ou faire de la place pour Dimitra. Moi, je pense qu'ils vont garder deux joueurs. Là. Gaborik est au Minnesota pour rester. Là.
Ben là, présentement, Gaborik, on connaît déjà ses problèmes contractuels.
Qu'est-ce qu'il a prouvé à date, lui, pour commander un salaire aussi élevé, honnêtement? Là.
Ben, il a quand même eu une bonne statistique. C'est 66 points en 65 matchs.
Écoute, on s'entend que c'est une bonne production, oui, là, si tu le mets avec le Canadien, mais à côté d'un Crosby ou d'un Ovechkin, là, c'est que dalle, là. Comprends-tu que c'est pas un... Il est pas dans le top 10, lui-là. Là. C'est pas une super vedette. Là. C'est un bon joueur, oui. De premier plan, oui, mais c'est pas...
À 24 ans, il a pas prouvé encore grand-chose.
Exact, exact. Il est pas aussi polyvalent non plus que Brad Richard.
Il a pas un Conn Smythe dans la poche.
Vraiment pas, Simon. Tu touches un point.
Mais moi, c'est pour ça que, d'après moi, je sais pas, mais l'avenue de Pavel Dimitra, pour moi, ça signifie pas mal la fin avec Gaborik.
Pense.
Ben, on peut-être connaît...
Gaborik va servir de monnaie d'échange d'une transaction majeure à ce moment-là.
C'est ce que je pense, parce que là, présentement, on connaît comment Doug Risebrough tient les finances assez serrées au Minnesota.
Ben, il n'y a pas le choix.
Puis, il va chercher un allié droit qui va demander...
Qui coûte 4,5 en ce moment. Puis l'autre Gaborik qui demande un 7 ou 8 millions. Là.
Tandis que Risebrough avait offert 5 millions à Gaborik.
On pourrait s'entendre, toujours s'entendre pour 6,5 ou proche de 7 millions avec ses bonnets de performance. Gaborik, s'il met l'épaule à la roue, pourrait quand même augmenter son salaire substantiellement.
Puis les Kings de Los Angeles qui libèrent 4,5 millions, ça veut dire probablement la venue du magasinage avec les agents libres qui s'en viennent. Maintenant, une autre grosse transaction, Alex Tanguay qui prend le chemin de Calgary en retour de Jordan Leopold. Et d'un choix conditionnel en 2007-2008 et le choix de deuxième ronde qu'il y a eu au dernier repêchage.
Moi, Simon, cette transaction-là, je la comprends pas. Mais oui, je la comprends. Je veux dire, pour les Flames, c'est quand même une bonne chose. Là où le bas blesse, Alex Tanguay, joueur offensif, dominant, prédominance, francophone. Moi, Bob Guéné, je comprends pas. Il dormait-tu ça à Switch, Simon? Ou Alex Tanguay était-il vraiment disponible? Parce que l'Avalanche, Colorado, Pierre Lacroix, puis Bob Guéné, dans l'histoire, là, l'Avalanche et le Canadien n'ont jamais vraiment hésité à transiger ensemble.
Non.
Bonne communication, là, à savoir qu'Alex Tanguay est disponible. Moi, je m'appelle Bob Guéné, je chausse l'occasion. Là.
Jordan Léopold, l'avenue de Jordan Léopold signifie probablement la sortie de Patrice Brisebois. Ensuite, pourquoi avoir échangé Alex Tanguay, qui est ton futur, à 26 ans?
Il y a juste 26 ans.
Il y a juste 26 ans, c'est ton futur à l'attaque pour les années à venir au Colorado. Il gagnait seulement 3,2 millions par année. Alors, on peut juste s'imaginer que Alex Tanguay, ailier gauche, Jérôme Miguilla, ailier droit. Quel flamèche que ça va faire sur le premier trio maintenant à Calgary?
Comme tu dis, Simon, on manque juste un centre de premier plan pour...
quand on connaît la défensive de Calgary.
Dion Phaneuf.
Et Mika Kiprusov.
Oui.
Donc, ça en fait un autre bon candidat dans l'Ouest. Oui. Maintenant, les équipes de... on voit tout de suite que la nouvelle convention collective... aide beaucoup les équipes canadiennes.
Ça a fait du bien, ça. Ça a comme stabilisé le jeu un peu. Quand on considère que le hockey est fort au Canada, écoute bien, là, Phoenix, Columbus, là, des marchés, Washington, ils ont Alexander Ovechkin, le joueur, on s'entend, le plus spectaculaire en ce moment dans la ligue.
Oui, absolument.
Puis les gradins vides. 6 000 personnes à Washington pour regarder les games. Moi, ça me fait mal de voir qu'une vedette évolue dans un milieu fermé comme ça. Puis là, bon, avec l'ancienne, comme tu dis, avec l'ancienne...
Amène Ovechkin à Montréal, puis on remplit le stade.
Hey, mon Dieu Seigneur, juste de penser à ça, j'ai des frissons, Simon. Hey, hey, Kovalev puis Ovechkin, c'est le même trio, tu vois ça?
Autre transaction. Les Bruins de Boston, qui ont échangé Andrew Raycroft au Maple Leafs de Toronto, en retour de l'excellent prospect Tuukka Rask.
Tuukka Rask,
pour répondre à ta question, ça a été le choix de première ronde des Maple Leafs de Toronto l'année dernière.
OK.
A été l'un des meilleurs gardiens de but au dernier tournoi mondial junior pour la Finlande. 6 pieds 2, 165 livres, 19 ans seulement. En retour de Andrew Raycroft, dernier récipiendaire 2003-2004 du trophée Calder, mais qui, en 30 parties... à 8 victoires, 19 défaites, une moyenne de buts alloués de 3.71 et une moyenne d'arrêt de 0.879.
Oh, ça fait mal. Donc, Raycroft, ce qu'il nous a montré, c'est qu'avec un club potable, il peut avoir des statistiques respectables. Avec un club qui en arrache un peu plus, là, tu te rends compte que c'est vraiment un gardien moyen.
Et Toronto, est-ce que c'est un club moyen?
Là, on s'entend, tantôt, on discutait là, d'une équipe qui avait probablement qui avait voulu violer la règle non écrite, bon, des joueurs de classe 2 sans compensation. Avec compensation, je m'excuse, dans le cas à Luongo. Si effectivement c'était le cas des Maple Leafs, là, ils ont descendu pas mal leur standard en allant mettre la main sur Raycroft.
Ben en plus, en allant donner...
Rask, justement.
Tuukka Rask. Ça, là, je la comprends pas
ça,
non
plus. Ça, c'est John Ferguson Jr. à Toronto?
Oui, monsieur.
Un autre accro du crack.
Les Maple Leafs qui pensent sincèrement que Andrew Raycroft pourrait rebondir de sa saison médiocre l'année dernière de Boston. Qui, en passant, est parti du poste de gardien de but numéro 1 à celui de numéro 3.
Une méchante drop. Il y avait Tim Thomas, après ça.
Anu Toivonen.
Les autres sont morts de rire à Boston en mettant la main sur... comment tu l'as dit déjà? Rask?
Tuukka Rask.
Tuukka Rask. J'aime son nom, moi, de toute façon. Tuukka Rask.
On se fiera pas trop sur le nom. Transaction qu'il y a eu cette semaine, les Blue Jackets de Columbus qui ont échangé Marc Denis au Lightning de Tampa Bay en retour de Frédéric Modine et de Frédéric Norin, un gardien de but qui joue dans la Ligue élite de Suède. D'ailleurs, on l'avait annoncé il y a déjà plus d'un mois que le Lightning de Tampa Bay, pour acquérir un gardien de but numéro 1, était prêt à céder un des trois joueurs qu'on avait nommés, entre autres Pavel Kubina, Feto Tanko, Frédéric Modine, et ils ont finalement cédé Frédéric Modine.
Oui, effectivement, Simon, Jeff Easter, qui, bon, en faisant cette transaction, semble avoir consolidé un peu devant le filet. Moi, Marc Denis... moyen. Un B moins.
Un B moins pour Marc Denis.
B moins.
Pas Pas plus.
B, peut-être un B, mais pas un B+, en tout cas. Oui, Simon, depuis le départ pour Chicago de Nikolaj Habiboulin, Lightning en arrachait passablement devant le filet avec Sean Burke, puis John Graham. Sean Burke qui vient de fêter son 59e anniversaire. Assez âgé comme gardien de but, puis bon, pas trop efficace. Avec Marc Denis, un joueur de 28 ans, je crois, gardien de but. Moi, Marc Denis, c'est quoi sa moyenne de but alloué l'an passé, Simon?
Ben, avec un club médiocre, l'année dernière, 3.25 en 2003-2004.
Pourcentage d'efficacité?
2.56, pourcentage d'efficacité de 900.
Ouais, pourcentage d'efficacité pas mauvais quand même, comme tu dis, avec
et
un club.
Un salaire très attrayant de seulement 1.7.
Oui, Jay Feaster qui a besoin de courir les aubaines.
Ça a été toute une aubaine pour lui. Autre joueur autonome sans restriction qui a signé avec son équipe d'origine, les Red Wings de Détroit ont signé Niklas Lidström, 2 ans, 7,6 millions.
C'est un choix logique, considérant le fait qu'il a gagné le trophée remis au meilleur défenseur de la Ligue. De toute façon, Lidström était déjà à Détroit. Très fiable, très bon défenseur. On classe dans les 3 ou 4 premiers avec Pronger, Chara, etc. Excellente décision de la part des Red Wings.
Maintenant, si on regarde les joueurs qui, à partir de minuit, sont tombés agents libres à travers la ligue, on va commencer par les gardiens de but. Alors, les principaux gardiens de but disponibles, Dwayne Rolawson, qui vient de Edmonton, Manny Legacy de Détroit, et Chris Manson, qui est le gardien de but substitut à Nashville.
Chris Mason, écoute Simon, substitut à Nashville, t'as dit. C'est loin d'un poste de numéro 1 à Montréal, ça, ou n'importe où ailleurs. Pour Dwayne Rolawson, on se demandait que va-t-il faire à Edmonton. Finalement, Kevin Lowe ne s'était pas trompé.
Il ne pourra pas aller chercher un contrat bien, bien plus gros que 3 ans. Il a déjà 37 ans.
Non, mais de toute façon, on l'avait avec aussi Markkanen. Là, ils ont comme trouvé un bon remplaçant.
Oui, mais j'ai l'impression qu'ils vont le signer pareil. Mais ça sera pas un contrat
un
de 4-5 ans.
Non.
Ça devrait être ça. Normalement, d'après moi, 2 ans, là, s'ils veulent le garder.
Donc, Rolawson, qui pour moi et toi, devrait rester à Edmonton. Manny Lagacé, c'est quand
même... Qui restera pas à Détroit.
Ah non?
Non. Détroit a vraiment été déçu de Manny Lagacé. Non pas de ses statistiques... de saison régulière, mais plus de sa performance pendant la série éliminatoire contre Edmonton. Maintenant, les défenseurs. Il y en a quand même des pas pires dans la liste, là. Ruslan Salé, Al Gill, Jay McKee, Aaron Ward, Willie Mitchell, Zeno Chara et Ed Janowski.
Bon, écoute, Janowski, Chara, on les connaît. Jay McKee, ça, c'est une belle option. Excellent défenseur, très efficace pour bloquer les tirs. Ouais. C'est une valeur sûre à Buffalo. Moi, je pense pas qu'il quitte Buffalo. En tout cas, s'il quitte les Sabres, c'est pas brillant de la part de l'organisation. Ça, c'est mon opinion.
Ouais, mais il l'aurait déjà signé à ce moment-là.
C'est dommage. Là, Jay McKee va faire saluer plusieurs équipes.
Ça pourrait être une bonne aubaine. C'est un bon 3 ou 4e défenseur.
Certainement.
Al Gill, qui est quand même un monstre, 6 pieds 5. Là.
Depuis que Thornton est parti, ce gars-là, il cherche un peu. C'est ça, comme son partner, co-chambreur.
Excuse-moi, j'ai-tu dit 6 pieds 5? 6 pieds 7 pour Al Gill.
Combien il mesure?
6 pieds 7.
6 pieds 7, Al Gill?
6 pieds 7, Al Gill.
Ouais, c'est un pan de mur, ça, quand même.
Ça pourrait être une... à défaut de pouvoir aller mettre la main sur Zeno Chara, qui d'ailleurs, sur les tribunes libres... à Montréal, tout le monde voudrait avoir Chara à Montréal.
Ben ouais.
À 8 millions par année.
Ben ouais.
Mais on connaît déjà l'historique du Canadien. Il n'a jamais vraiment investi autant d'argent sur un joueur.
Le joueur le mieux payé, c'était Patrick Roy à l'époque.
Non, même pas. Je pense que ça a été Théodore.
Théodore. Écoute, non, moi, je pense que c'est vraiment pas... De toute façon, entre Jovanovski et Chara, j'ai recherché Jovanovski. Pour moi. Là.
Maintenant, un autre bon défenseur qui s'est démarqué durant les séries éliminatoires, ça a été Aaron Ward. Ça n'a pas été le joueur le plus spectaculaire en attaque, mais en défensive, ultra fiable, francophone en plus.
Oui, c'est vrai.
Ça pourrait être une belle option, ça, pour Montréal.
Bon point, ça, Simon. Il est-tu âgé, ce joueur-là? Il me semble que non, 27 ou 28 ans. Mine de rien, nous autres, Simon, à Montréal, on est en train de se construire une bonne brigade défensive. Hein?
Absolument. Et puis, Aaron Ward, pour répondre à ta question, a 33 ans.
33 ans, ouf.
Oh, tu es en train de déchanter.
Ouais, 33 ans, c'est un peu tard.
Un peu tard?
C'est vieux, ça, 33 ans.
Ben, c'est encore pour un défenseur.
Un an ou deux, là, ça passe, là, mais au-delà de ça...
Ben, Chris Pronger, c'est ça qu'il y a.
Ouais, mais Chris Pronger, c'est la coche. Tu peux pas comparer les pommes et les oranges.
Là, un autre défenseur qui est disponible, justement, Chris Pronger, qui veut justement être échangé d'Edmonton, sa femme qui aime pas la ville. Si on regarde les attaquants maintenant, il y en a encore de très bons. Marc Savard, Mike Greer, Jason Arnott, Brendan Shanahan, Jeremy Roenick, Yann Bulis, Patrick Eliash, Martin Straka, Jimmy Langenbrunner.
Effectivement, Simon, il y en a quand même plusieurs qui sont disponibles, qui pourraient intéresser sûrement plusieurs équipes. Bon, on a juste à penser à Marc Savard.
Marc Savard, qui, partout ce qu'il a été, a eu des problèmes quand même avec les entraîneurs ou ce qu'il a été. Et il va demander autour de 6 millions.
6 millions?
Oui. Puis il y a eu des très bonnes statistiques, 97 points, mais maintenant qu'il va être loin de Ilya Kovalchuk, combien il va en faire, ça?
C'est un bon point, ça. Bon point.
Fait que moi, personnellement, Marc Savard, je toucherais pas à ça, surtout pas à Montréal, quand on sait déjà qu'on a un problème au niveau de la grandeur des joueurs.
Oui, oui, moi j'en ai parlé précédemment, là, pas mal tanné des petits gabarits. Là. Écoute, c'est ça qui est ça.
Mike Greer,
bon, de toute façon, il joue pour les Sabres de Buffalo, donc on oublie ça à Montréal. De toute façon, Mike Greer, on s'entend, c'est pour un joueur de troisième trio.
Un plombier.
Un quatrième trio.
Jason Arnott.
Oui, les rumeurs s'intensifient en ce moment par rapport à lui. Le Canadien apparemment serait intéressé à aller le chercher à Dallas. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, aux dernières nouvelles, Dallas, les négociations ont été rompues parce qu'il pouvait pas y offrir plus que de 3 millions.
Plus que 3 millions en raison du plafond salarial?
C'est ça.
3 millions, on s'entend qu'il vaut plus que ça.
Il va-tu demander autour de 5 millions?
4,2.
J'imagine que ça devrait être dans les mêmes chiffres que Kovalev. Maintenant, venant à Montréal, c'est-tu ton premier centre ou tu laisses Koivu?
Koivu, là, on s'entend, là. Bon, hey, moi. Simon, c'est drôle que tu parles de Sakou, moi. Chapeau pour l'homme. Bon, il s'implique pas mal dans la communauté. Bon, voir Sainte-Justine une fin de semaine sur deux. Moi, j'ai rien contre le bonhomme. Où est-ce que le Bob laisse? C'est vraiment sa glace. Écoute, avec ses 5 pieds 7, là, il en arrache un peu sa cou avec ses genoux en carton. 5 et 10, c'est pas vrai, ça. Il fait pas 5 et 10, ce gars-là. C'est pas vrai, pas en tout. Là, en plus, il est rendu coque-l'œil. Ah, regarde, là. Mets ça dans une boîte, ship ça par FedEx, envoie ça à Phoenix. Moi, je pense qu'il était chanceux. Pareil, Bob, il a signé le gros contrat, en plus, avec une clause de non-échange. Mais... je pense que c'est ça. Hein, ça
on coûte. Est pogné avec.
Ouais, pogné avec.
Mais moi, je t'avais dit deuxième que ça pouvait... centre. On avait parlé dans une ancienne émission, puis je t'avais dit que si on pouvait trouver un premier centre digne de ce nom-là, on était avec Koivu, avec un deuxième centre de luxe.
T'as raison. Mais on s'entend que partout dans la ligue, Koivu, il n'est pas premier centre nulle part. Là. Hey. Les Mighty Ducks d'Anaheim avec, c'est l'année, là, ces deux-là, ils ont fait des flamèches aux Olympiques. C'est peut-être la seule place que je le verrais, moi, honnêtement.
Bon, de toute évidence, je pense que t'as une dent contre Koivu.
Et comme je te dis, j'ai rien contre l'homme, mais là, on parle de hockey, là. Puis là, hockey, bon, écoute, on connaît la réalité à cette heure, le jeu est très rapide, le physique. Ça coûte, moi, il m'a jamais vraiment écarquillé les yeux, là. Puis lui, on parle de ses yeux.
Brendan Shanahan, avec une saison de 40 buts, s'est dit disponible à vouloir venir jouer à Montréal. Ça faisait partie de sa liste des villes qui étaient prêtes à venir. Et étrangement, sa femme aussi s'était dit prête à venir à Montréal. C'était sur sa liste.
Non, mais c'est une farce, ça. On entend tout le temps parler des femmes. Bon, ma femme n'est pas contente à Edmonton. Ma femme, elle aimerait ça Toronto. Blablabla. Écoute bien, c'est qui ramène la thune au foyer, là? C'est le gars ou c'est la femme, là? Je m'excuse des commentaires un peu sexistes peut-être, là. Mais là, on s'entend, le gars, il a une carrière, c'est un joueur de haut niveau dans la Ligue nationale, il commande des salaires de 4-5 millions par année. Fait que quand ta femme, elle aime pas ça tricoter avec les autres joueurs, les autres femmes de joueurs à Edmonton, gars, ou peu importe la ville. En tout cas, je trouve ça absurde.
Mais Brendan Shanahan a 40 buts, 38 ans. On pourrait demander un contrat dans les alentours de 4 millions.
À 4 millions, moi, je l'ai... Malgré que, bon, là, on parlait de... Entre Arnott et Shanahan.
Mais là, un, c'est un centre, l'autre, c'est un ailier.
Ouais, mais là, il n'y a pas de la place pour tout le monde non plus.
Faut pas se faire d'illusions non plus. Il y a combien de joueurs qui disent des choses semblables, puis dans le fond, ils sont pas intéressés à venir à Montréal, puis ils servent du Canadien juste pour augmenter les enchères.
C'est pas fou, ça.
Moi, Brendan Shannon, j'y dirais pas non. Contrat de 2 ans. 40 buts l'année passée.
Ouais, 40 buts à Détroit.
Quand même. Jeremy Roenick qui a dit cette semaine qu'il était tout à fait disponible à vouloir jouer avec une équipe canadienne.
Ah.
Et ces tribunes libres cette semaine, j'ai pu entendre de nombreuses personnes qui voyaient Jeremy Roenick à Montréal s'il y avait un contrat dans les alentours de 1,5, 2 millions et que, comme deuxième centre à la place de Ribeiro, on posait la question, Roenick ou Ribeiro?
Ben, c'est deux joueurs bien différents, là. Roenick va foncer au filet, Ribeiro ralentit le jeu pour laisser ses joueurs se démarquer. Moi, c'est con, là, mais Ribeiro, il a pas encore trouvé le joueur avec qui jouer, à part peut-être Kovalev en fin d'année l'année passée. Moi, j'aime mieux Ribeiro que Roenick. Roenick, c'est une grande gueule.
Ben, Roenick, je pense qu'il a quelque chose comme 37 ans. Elle est rendue à 11 commotions cérébrales.
Ouais, ouais.
Moi, je le voudrais pas à Montréal. Probablement, on connaît un peu l'histoire des Maple Leafs de Toronto qui, eux, collectionnent les joueurs avec les commotions cérébrales. On pense à Eric Lindros, Jason Allison. D'après moi, il va finir par aboutir. Ça m'étonnerait pas pantoute à Toronto.
Ouais. Donc, il va encore sûrement apporter des commentaires à propos des joueurs francophones puis pour faire plaisir aux tribunes de Toronto. Puis là, ça va être la guerre ouverte entre les Maple Leafs et les Canadiens.
C'est en plein ça. Ça ferait revivre certainement une certaine rivalité entre les deux villes.
Ouais.
Bon, on va passer au prochain. Patrick Elliache.
Patrick Elliache.
Qui devrait commander, selon ses demandes, autour de 7 à 8 millions.
Mais je comprends pas, là. Je comprends juste pas, là. Parce que Elliache, avant qu'Elliache ait été blessé cette année, Simon, les Devils n'allaient nulle part sans Elliache.
45 points en 38 parties. Patrick Elliache a 30 ans. Donc, on parle d'un joueur qui, en santé, pourrait aller chercher autour de 100 points dans une saison. C'est ce qui met un terme à cette portion d'émission. On va passer maintenant au segment Shotlock.
Simon Smirka and his guests are ready. Are you? Because it's time to beat the clock.
Allons-y, Simon. Beat the clock.
Contrat de 5 ans pour Peter Laviolette. Jim Rutherford est-il tombé sur la tête?
Oui, bonne question, Simon. Écoute, contrat de 5 ans pour la Violette. Après la conquête de la Coupe, Jim Rutherford peut dire qu'il avait raison. La Violette est jeune, connaît bien son hockey, il a su utiliser parfaitement les éléments à sa disposition. Avant d'assurer son poste avec la Caroline, la Violette était au centre de plusieurs rumeurs. Ne doute que plusieurs équipes auraient voulu l'embaucher. Mais Jim Rutherford a tranché et il a indiqué comme ça aux autres équipes d'aller voir ailleurs.
Ne t'en déplaise, Maxime, je ne suis pas d'accord avec toi. Que dire de cette bourde? Je pense que Rutherford ne tolère guère l'alcool et qu'il est encore sous l'effet du champagne de la dernière coupe. Quand on sait que les entraîneurs ne vont pas chercher plus de 3 ans, à moins de s'appeler Scotty Bowman. Dans 2 ans, Rutherford va se réveiller de sa cuite au champagne avec un mal de bloc et encore 2 ou 3 ans à payer un entraîneur qui l'aura congédié d'ici ce temps-là. Contrat de 5 ans, 18 millions pour Rod Brind'Amour qui a 36 ans. Jim Rutherford, est-il tombé sous la tête?
Bon, écoute, Simon, sûrement que ma réponse va être aux antipodes de la tienne. Jim Rutherford, qui, à ton avis, est encore sous l'effet du champagne. Écoute, contrat de 5 ans, 10 millions pour Brind'Amour. Le salaire, ça passe encore. Là où il y a un os, c'est la durée. Dans 5 ans, Brind'Amour aura 41 ans. On est d'accord, cette année, le capitaine représentait le cœur. Il a joué un rôle essentiel dans leur cheminement vers la coupe. Le DG s'est dit, sans Rod Brind'Amour puis sans Cam Ward, égale, pas de coupe. Brind'Amour pour 3 ans, d'accord, pour 5 ans, ça ressemble à des vœux de remerciement.
Effectivement, Maxime, je ne suis pas de ton avis. Jim Rutherford, dans un excellent de joie, a donné la carte de guichet et le nip de l'équipe aux joueurs. Pas des chèques en blanc. C'est là qu'on voit la différence entre un bon directeur général et un mauvais. Je ne dis pas que Jim Rutherford n'est pas capable de construire une bonne équipe. Cependant, quand on regarde Ken Holland avec les Red Wings de Détroit qui a donné à Niklas Lindstrom, qui a aussi 36 ans, un contrat de 2 ans, et Rutherford qui en donne un contrat de 5 ans, 18 millions, c'est le monde à l'envers. Evander Holyfield tente un retour dans le ring à 43 ans. Est-ce logique?
Logique, Simon, bonne question. Holyfield à 43 ans, bon, Foreman a déjà tenté l'expérience, il en avait surpris plus d'un. Holyfield, il n'y a pas doute, c'est un athlète encore en grande forme, et peut-être a-t-il senti une opportunité après le départ de Lennox Lewis, puis les dérapes continuelles de Mike Tyson. Bon, dans une catégorie 3 qui manque un peu de lustre, on s'entend, à part les frères Klitschko, là, Evander s'est dit « pourquoi pas ». Après plusieurs combats majeurs et de grosses bourses, j'espère que celui-ci ne négligera pas la forme physique pour faire un coup d'argent. Il n'est pas le premier à tenter l'expérience. Ces gens-là n'ont jamais cotisé dans la régie des rentes.
On peut quand même pas penser qu'à 43 ans, Holyfield va attirer encore les foules. Mais bon, c'est une perte de temps juste d'en parler. Mais ce qui me dérange, c'est le fait qu'il y a des personnes qui trouvent la situation à Holyfield stupide, alors qu'ils pensent que Hilton peut faire un retour après 3 ans d'inactivité et 42 ans bien sonnés. C'est ce qui met un terme à l'émission de cette semaine. En terminant, je voudrais juste vous annoncer qu'on a mis un terme au forum Les Gérants d'Estrade et que nous avons ouvert sur le site www.rbds.ca un blog sur les coulisses de la Ligue nationale de hockey, où ce que je vous invite à écrire en grand nombre, vous pourrez y trouver les dernières rumeurs d'échanges et les signatures de contrats dans la Ligue nationale de hockey. Vous pouvez aussi nous laisser par le www.rbds.ca vos commentaires vocaux si vous avez un micro. Les plus intéressants, on pourra les passer durant l'émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on se revoit la semaine prochaine.
See you next week for another show with Simon Smirka and his guests.